Après les municipales, place aux grands entretiens. Les maires au micro sur Tendance Ouest.
Bonjour à tous, c'était il y a presque 3 mois, les 15 et 22 mars, chacun était invité aux urnes pour choisir son maire. L'élu de proximité par excellence, le visage que les électeurs identifient le mieux avec celui de leur président, ce sont d'ailleurs les deux élections qui ont encore le plus fort taux de participation. À 3 mois de cette élection, à l'aune d'un nouveau mandat, comment se construisent les projets? Comment les maires organisent leur quotidien avec leurs équipes? Comment vivent-ils leur vie d'élu? Pour en parler jusqu'à 13h avec nous, Christophe Bouillon est notre invité, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le maire de Barentin, un peu plus de 12 000 habitants au nord de Rouen. C'est votre deuxième mandat au sein de cette commune. Vous êtes également président de la communauté de communes Caux-Ostreberthe. Un mot sur vous d'abord, vous avez 57 ans, vous êtes socialiste, toujours au Parti Socialiste.
Alors je suis plus adhérent du Parti Socialiste depuis presque 4 ans maintenant, mais pour autant je n'ai pas fait le mercato, je ne suis allé nulle part ailleurs et je me sens toujours proche bien évidemment de la gauche et des socialistes.
Engagé de longue date en politique, est-ce que vous vous souvenez de ce qui a déclenché votre envie de vous engager tout jeune ?
Oui, d'abord c'est être utile d'une certaine manière. J'étais curieux et c'est vrai que ça permet de nourrir cette curiosité. Moi j'ai eu la chance quand j'étais étudiant ici à l'université de Rouen, en droit, j'ai fait à la fois les études de maths et de droit. Mon professeur de droit était Yvon Robert.
Ancien maire de Rouen.
Ancien maire de Rouen et il s'est présenté pour la première fois en 1995. Il m'avait repéré parmi ses étudiants et il m'a proposé de figurer sur sa liste en bonne place. Et donc ça a été pour moi un saut dans le bain politique d'une certaine manière et de la meilleure façon qui soit parce que je trouve que c'est toujours intéressant de commencer par un mandat communal, municipal parce que c'est un mandat concret d'une certaine manière. C'est vrai que c'est un mandat qui se transforme aussi, qui nous transforme. On arrive souvent quand on est jeune, vous l'imaginez, avec une certaine fougue, avec un esprit partisan, voire très partisan. Il y a l'exercice local.
Des idées un peu arrêtées peut-être, ou en tout cas
c'est normal, c'est
des grandes
jeunesse, on a des idéaux encore plus forts, plus marqués quelque part. Mais l'action locale, elle ne gomme pas bien évidemment cette conviction, mais elle les modère un peu, en tout cas elle les organise un peu différemment.
Donc dans les années, on était à la fin des années 80, premier mandat comme conseiller municipal de Rouen. Vous en avez eu plusieurs des mandats. Vous avez été longtemps maire de Canteleu dans l'Aglo, conseiller départemental, député aussi pendant 13 ans je crois. C'est le plus beau mandat, celui de maire.
Oui, sincèrement, et je peux le dire maintenant pour en avoir exercé d'autres. C'est des mandats aussi différents. Sincèrement, voter la loi, c'est aussi important. Si on fait son travail à l'Assemblée, des éléments qui peuvent vous aider aussi à améliorer votre connaissance, à être utile pour faire voter des lois qui vont dans le bon sens. Donc, je ne jette pas la pierre après avoir exercé ce mandat. Mais maire, on est en capacité de répondre à la question « qu'est-ce que vous faites ?» C'est très simple, quand vous êtes maire, de dire « vous voyez, il y a tel ou tel équipement qui a été refait, il y a telle ou telle action qui est utile dans la vie de tous les jours pour les écoles, vous êtes capable de dire en quoi vous contribuez à l'eau, l'assainissement, bref, il y a des compétences qui concernent la vie de tous les jours. »
C'est-à-dire qu'on sent tout de suite le résultat de son action, en fait, aussi, on a des résultats un peu visibles immédiatement.
Oui, c'est le mandat du concret, c'est le mandat de la proximité. Même si à l'Assemblée vous vous battez comme un beau diable pour faire passer un amendement, le temps que tout ça devienne très concret dans la vie des gens, ça prendra un peu de temps. Alors que là, vous avez des moyens d'agir et ça se voit.
Et justement, vous avez démissionné en 2020 de votre mandat de député pour devenir maire de Barentin. Ça, c'est la loi de non-cumul des mandats qui l'oblige aussi. Vous avez hésité à l'époque ou pas? Parce que donc, vous parliez de se battre comme un beau diable à l'Assemblée. Il y a aussi une petite différence entre eux et vous. Vous avez connu les deux, siéger dans la majorité ou dans l'opposition.
Alors moi j'ai connu différentes configurations puisque j'ai été élu la première fois comme député en 2007, donc j'ai connu l'opposition, ensuite la majorité, ensuite quelque chose d'une certaine manière. Moi j'avais fait le choix d'appliquer la loi sur le non-cumul dès 2014, c'est la raison pour laquelle je m'étais pas présenté à l'époque à Canteleu, et en fait ce qui m'a poussé à lâcher mon mandat de député en 2020, c'est le sentiment finalement que je pourrais être beaucoup plus utile dans un mandat municipal. Et il se trouve qu'en 2020, il y avait des municipales. Le maire de l'époque à Barentin, Michel Bonteau, qui a exercé ce mandat pendant 31 ans, est venu me chercher, m'a incité, m'a encouragé quelque part à prendre cette fonction. Et il y avait des enjeux sur Barentin, il y avait des friches, il y avait un travail à réaliser. Donc je me suis dit à ce moment-là, c'est le moment ou jamais. Et puis moi, je suis plutôt quelqu'un de cycle, c'est-à-dire que je m'enferme pas dans une fonction pendant très longtemps. Je l'exerce pleinement. 13 ans, c'est déjà pas mal. Mais je suis pas là pour m'éterniser. Et tant qu'on a du souffle, tant qu'on a de l'énergie, tant qu'on a de l'envie, c'est utile. Et déjà à l'Assemblée nationale, je voyais pointer des comportements, des attitudes.
Alors c'est ce que j'allais vous demander, parce qu'on va en parler tout à l'heure des enjeux de Barentin, mais à l'Assemblée, vous avez connu plusieurs époques et on parle souvent, un peu vulgairement, de la bordélisation de la vie politique, de ces trois blocs un peu qui s'opposent à l'Assemblée. Vous l'avez vécu de l'intérieur, vous avez ressenti ça, ou finalement les échanges ont toujours été un peu musclés dans l'hémicycle?
J'ai vécu une vraie transformation. Vous aviez un respect qui existe. On pouvait bien évidemment ne pas partager les mêmes idées, se retrouver sur des bancs opposés, mais en même temps, il y avait un respect de la fonction et un respect de ceux et celles qui étaient présents avec vous dans l'hémicycle. Tout ça a un peu disparu et quelque part, moi, ce que je trouve dommage, c'est l'incapacité parfois de trouver sur des sujets qui peuvent réclamer une forme de consensus, de pouvoir le faire. Puis, moi, j'ai envie de dire que la politique spectacle, c'est pas mon truc. Causer c'est bien, agir c'est mieux. Et j'ai trouvé quelque part que cette dimension-là, elle n'était plus évidente à l'Assemblée nationale. Et puis je voulais, encore une fois, pouvoir répondre concrètement à la question que pouvaient me poser des administrés. À quoi vous servez? Qu'est-ce que vous faites? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, force est de constater, c'est quand même beaucoup plus évident d'apporter une réponse quand vous êtes maire.
Vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes plus adhérent au Parti Socialiste. Néanmoins, c'est là que vous avez forgé votre engagement politique. Moins de responsabilités donc dans la direction du parti, de fait, dont vous avez été le premier secrétaire, hein, le secrétaire fédéral pour la Seine-Maritime. Est-ce qu'on peut vous demander ce qui vous a pas fait renouveler votre adhésion? Il y a une déception, c'est la direction locale, c'est...
Alors, plusieurs choses. Alors d'abord, j'ai exercé une fonction de premier secrétaire pendant 17 ans, donc là, c'était... Et j'ai commencé très tôt, puisque j'ai été premier secrétaire à l'âge de 26 ans, et j'ai été le plus jeune premier secrétaire pendant des années. Je ne souhaitais pas devenir le plus vieux, et je pense que c'est important aussi, là, la notion de cycle est importante. Il ne faut pas, je pense, s'enfermer dans une fonction en particulier. J'ai adoré ce que j'ai fait à ce moment-là. J'ai souhaité à un moment ou à un autre me détacher du Parti Socialiste en tant qu'adhérent, hein, pas au niveau des idées, tout simplement parce que j'ai pu être déçu à un moment ou à un autre que on n'ait pas considéré que l'alliance avec les partenaires de gauche était essentielle et importante. Et j'ai considéré que lors des dernières élections au département notamment, moi, je privilégiais une alliance avec les élus communistes.
Avec les communistes.
Qui sont présents à l'échelle du territoire.
Ça n'a pas été le cas.
Qui font sur leur territoire un très bon travail. On a des élus au département qui, historiquement, sont bien implantés.
Et le département aurait pu être à gauche avec cette alliance?
Oui, je crois, parce qu'il y avait une vraie dynamique. Vous savez, il y a aujourd'hui une majorité qui tient quasiment à un siège. Il y aurait pu avoir une dynamique positive. Il y avait parmi les élus communistes des élus d'importance, le maire de Dieppe, Nicolas Langlois par exemple. Donc moi j'avais privilégié plutôt cette option-là, ça n'a pas été entendu, j'ai trouvé ça dommage.
Par d'autres, comme le maire de Rouen par exemple, pour pas
le
nommer.
Par beaucoup d'autres, je pense, qui ont souhaité privilégier à l'époque, on ne va pas vivre dans le passé, tout ça est derrière moi, mais voilà, j'ai trouvé ça dommage d'une certaine manière, ça n'a sans doute pas permis de faire la bascule au niveau du conseil départemental. Moi, je ne suis pas du sort à vivre des regrets. Depuis, de l'eau qui est passée sous les ponts, pas simplement les ponts de Rouen, mais plein tous les ponts du département, d'une certaine manière.
Constate néanmoins qu'en général, la gauche divisée a du mal à gagner des exécutifs.
Ça devrait être une leçon, d'ailleurs, parce que quand on voit aujourd'hui le décor qui est en train de se planter pour les élections présidentielles, ça ne va pas dans le bon sens, il faut se le dire assez simplement. De toute façon, un camp qui est divisé est un camp qui perd. C'est une évidence.
Maire, le plus beau des mandats, on disait. Mandat qui est difficile aussi. Vous êtes à portée de baffe, selon l'expression consacrée. Pardon, mais c'est ce qu'on dit tout le temps. Et les réseaux sociaux n'aident pas, c'est vrai. Le maire de Rouen, justement, Nicolas Mayrossignol, a porté plainte récemment pour des menaces de mort sur les réseaux sociaux. La maire de Grand-Couronne, Julie Lesage, a aussi été inquiétée. Et beaucoup d'autres élus, ce serait presque trop long, malheureusement, d'en faire la liste. Comment est-ce qu'on peut lutter contre cette exposition, cette parole violente qui... C'est décomplexé ces derniers temps peut-être, je ne sais pas, c'est vous qui allez me le dire.
Il faut surtout faire en sorte à ce que l'élu, dans l'exercice de ses fonctions, il sente le souffle de la puissance publique derrière lui. Ce n'est pas imaginable qu'on laisse un maire tout seul confronté à des violences verbales. Ce qui est arrivé à Nicolas Mayer-Rossignol est purement scandaleux, inadmissible, et il a eu raison de porter plainte, et il est soutenu. Hein,
c'était un commentaire sur un article de presse.
Et voilà, vous savez, je suis de ceux qui pensent...
Menace de mort explicite, en tout cas.
Mais je suis de ceux qui pensent que ça commence par le verbe et ça se transforme en violence physique. Et il ne faut pas considérer qu'on peut permettre à ce qu'à travers les réseaux sociaux, parfois de façon anonyme, eh bien, on jette l'opprobre sur des élus et on se permette d'avoir des menaces de mort. C'est inadmissible. Les mots, ils ont de l'importance. Et c'est des incitations, tout simplement, à la haine et à s'en prendre aux élus. Ce que je considère, d'une certaine manière, c'est qu'il y a trop d'actions qui n'ont pas de suite. Au point de vue de la justice, nous, on a demandé au pouvoir public, au plus haut niveau, à ce que des instructions soient données au procureur pour qu'à chaque fois qu'un élu est confronté à une violence, elle peut être verbale ou physique, eh bien, l'action de la justice soit engagée vraiment dans les meilleurs
délais.
Parce
que c'est une circonstance aggravante, une menace de mort contre un élu.
Concrètement, nous, on avait demandé, ça a été entendu en partie, à ce qu'on considère l'élu comme étant dépositaire de l'autorité publique, comme l'est un gendarme, par exemple, un policier, un pompier.
Un magistrat.
Et donc que les sanctions soient à la hauteur de cette fonction. J'ajoute un point, et ça me semble important, n'oublions jamais que la plupart du temps, quand les maires sont molestés, quand ils sont attaqués, violentés, c'est souvent quand ils exercent des missions qui sont en rapport direct avec des fonctions de l'État. Vous savez, le maire, il a une double personnalité. Il est à la fois celui qu'on a élu, qui préside le conseil municipal, qui prend des décisions locales, mais il est aussi l'agent de l'État. Quand il fait en sorte d'éviter un dépôt sauvage, eh bien, il agit au nom de l'État. Lorsqu'il impose une règle d'urbanisme, empêche n'importe quel type de construction, il agit au nom de l'État. Et c'est souvent dans ces fonctions-là qu'il est attaqué, qu'il est violenté. Et donc on a besoin de se dire qu'il faut que le maire ne se retrouve pas tout seul.
Il faut sacraliser un peu ce statut. Parce qu'on parle des procédures judiciaires, vous le disiez, il faut que ça aille vite. Et en l'occurrence, c'est allé relativement vite pour la plainte qui a été déposée par le maire de Rouen. Il y a aussi la question de la protection. Quoi. Évidemment que le maire d'une petite ville ne se promène pas avec trois gardes du corps. Est-ce qu'il y a des dispositifs comme ça qu'il faut renforcer? Il y a des boutons d'alerte, je crois, pour qu'on puisse...
Il y a eu des mesures qui ont été adoptées. La gendarmerie nationale... à des référents, il y a en effet ces boutons qui existent. Au-delà de ça, il y a une attention très particulière, il faut l'admettre, de la part des pouvoirs publics. Bon, c'est une chose. Par contre, c'est vrai que c'est sur les réseaux sociaux où on n'accorde pas suffisamment d'importance à ce que j'appelle, moi, des signaux faibles. On considère quelque part qu'on a le droit de se reprendre assez facilement à un maire, qu'on peut dire n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est parfois la jungle, hein, vous savez... c'est un lieu sans foi ni loi, et je pense qu'on sous-estime l'effet que ça peut avoir, d'autant plus qu'on a vu venir ce phénomène qu'on peut qualifier d'ingérence aujourd'hui, c'est-à-dire que on a par l'IA aussi parfois détournement d'images d'élus, on pourrait en sourire, on pourrait considérer que c'est la caricature, mais parfois c'est ce qui aggrave un peu, en tout cas incite quelque part à s'en prendre directement à l'élu.
Ça vous est arrivé, vous, justement, aussi, d'être confronté comme ça un peu à une violence de la parole de la part de vos administrés ?
Moi, j'ai pas eu à être confronté ni à des violences physiques pour l'instant, ni même à des incitations à la haine, à des menaces de mort et autres. Parfois, on a des mots qui sont durs, hein, d'une certaine manière. On a sans doute des commentaires qui ne devraient pas exister, mais je n'en suis pas encore arrivé là, et tant mieux. Mais encore une fois, une vigilance absolue, il ne faut pas lâcher prise et il ne faut pas laisser les élus tout seuls.
Midi 19 sur Tendance Ouest, merci d'être à l'écoute. Nous sommes avec Christophe Bouillon, le maire de Barentin, près de 3 mois après sa réélection à la tête de la ville. Et on va évoquer dans un instant quelques-uns des projets qui vont animer votre mandat. Ce sera juste après cette courte pause.
Après les municipales, place aux grands entretiens. Les maires au micro, c'est jusqu'à 13h sur Tendance Ouest.
De retour sur Tendance Ouest à midi 26 avec Christophe Bouillon, le maire de Barentin, deuxième mandat à la tête de la ville. On va évoquer ensemble quelques-uns des enjeux qui concernent votre commune, notamment celui de la zone commerciale. Cette grandes zones commerciales, bien connues évidemment de nos auditeurs, plus de 200 enseignes, 5 millions de clients par an. C'était l'une des toutes premières de France, il faut le dire, en 1973, à l'époque la plus importante de toute la Normandie. Elle a été conçue, c'est vrai, à l'époque toute pompidolienne, on va dire, du tout voiture et de l'âge d'or de l'automobile. Et finalement, elle n'a pas encore beaucoup changé. Est-ce qu'elle est désuète, cette zone commerciale, Christophe Vouillon?
Alors d'abord, elle est en train de changer. D'abord parce que aussi les habitudes de consommation changent. Mmh. On n'est plus dans les années 70 et 80, même si c'est un chiffre qui ne concerne pas simplement la zone de Barentin, mais il y a encore 79% des achats courants qui se font dans les zones commerciales. C'est-à-dire que ce n'est pas la fin des zones commerciales en France.
C'est encore un rendez-vous du samedi, notamment.
Voilà, c'est encore un rendez-vous, c'est encore un lieu où on trouve différentes enseignes, on a tout facilité. Qui est facilement accessible, etc., etc. Simplement, ces habitudes de consommation.
C'est quoi accessible en voiture.
Oui, parce que, vous voyez, par exemple, si on prend la zone commerciale de Barentin, c'est une zone d'achalandise de 500 000 habitants. Donc, ce n'est pas les habitants de Barentin, c'est ni les habitants des communes alentours, c'est plus largement, ça concerne la métropole de Rouen, c'est une zone commerciale d'envergure régionale. Mais il y a plus d'internet aujourd'hui, il y a des achats sur internet, il y a du seconde main. On voit que le textile en France est en grande difficulté parce que il y a plein d'enseignes qui ont fermé depuis 3 ans maintenant, partout en France. On voit que là aussi les habitants réfléchissent à deux fois avant de renouveler leur garde-robe d'une certaine manière. Donc il faut s'adapter à cela. Il y a aussi une recherche et une demande en termes expérientiels, on dit, c'est-à-dire on veut venir dans une zone d'activité, une zone commerciale, pas simplement pour un acte d'achat, mais aussi pour passer un moment. Et donc, on a de plus en plus une demande de loisirs, on a de plus en plus une demande de
restaurants. Oui, ça, c'est vrai, sur l'offre commerciale, il faut un renouvellement. Les gens veulent faire quelques courses et puis peut-être après, ça veut dire quoi? C'est faire un bowling, ça a manqué à Barentin. C'est en train de changer. Il y a notamment un complexe de
padel, qui existe. On a beaucoup de salles de sport. Donc, on a des services aussi qui sont présents sur la zone. Voilà, on veut plus simplement y venir pousser son caddie. On veut y rester un peu plus de temps, mais faire plein de choses et se faciliter la vie. C'est-à-dire que c'est vrai que si on y trouve en même temps des services, bah, ça évite de reprendre sa voiture pour aller ailleurs. Donc on est presque sur une construction d'une ville, d'une certaine manière. C'est la raison pour laquelle Barentin a été identifié au niveau national dans le plan national de transformation des zones commerciales, où on s'intéresse pas simplement aux mètres carrés sociaux, mais on regarde les aménagements routiers.
Ah ouais, c'est ce que j'allais vous dire, parce que c'est une émission qu'on consacre au maire. Et évidemment, le sujet de la zone commerciale, c'est pas seulement la ville de Barentin avec ses moyens qui peut changer complètement la donne. Donc là, c'est là que le maire, il doit aller construire des dossiers, chercher des partenariats. En l'occurrence, ça se passe au niveau de l'État, là.
Oui, parce que, alors d'abord, la vérité, c'est que vous avez des propriétaires, hein, de cellules commerciales. C'est pas le maire qui décide du loyer, c'est le propriétaire. C'est pas le maire qui décide de refaire l'aménagement, de changer un peu la vision qu'on peut avoir du bâtiment. C'est pas le maire qui choisit telle ou telle enseigne concrètement. Par contre, le maire, et c'est ce travail qu'on fait, on peut contribuer aux aménagements. Le bus est maintenant sur la zone commerciale. C'était une demande à la fois pour les salariés. Il y a 2500 salariés, hein, sur cette zone commerciale, mais aussi pour éventuellement un certain nombre de clients.
Et ça a l'air de rien comme ça, mais c'était une zone qui n'était pas desservie du tout par les transports en commun.
Non, d'ailleurs, il y a
jusqu'à 2024. Hein,
c'est ça, exactement. Il n'y avait pas de transport en commun, même plus largement sur le territoire. Il faut aussi fluidifier la circulation. Vous avez 40% de la circulation qui est interne à la zone. En gros, on prend sa voiture pour aller d'une enseigne à l'autre. Donc ça, il faut éviter de le faire. Il n'y a pas de piste cyclable aujourd'hui. C'est difficile quand on est piéton de circuler d'un espace à l'autre. Donc voilà, il y a un gros travail qui va être réalisé pour essayer de faire en sorte à ce que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable.
Alors c'est ce que j'allais vous demander. On en est où sur ça? Est-ce qu'on peut imaginer, parce que on peut le dire que ce n'est pas encore le cas, circuler à pied, entre les enseignes, à vélo, dans cette zone. Alors c'est vrai qu'on fait des courses, alors on peut être chargé. Donc là, l'usage, très clairement, c'est on a sa voiture sur le parking de la grande surface, on reprend la voiture pour aller au magasin de matelas à côté, et puis on la reprend pour aller à la salle de sport, on la reprend pour aller au restaurant qui est à 50 mètres. Est-ce qu'on peut imaginer circuler autrement? Aujourd'hui, circuler à pied sur la zone commerciale de Barentin, ça demande un certain courage.
Oui, en tout cas, c'est tout simplement parce qu'il y a très peu de passages piétons, il y a très peu de cheminements qui sont dédiés à la marche à pied ou même au vélo. Donc c'est ça qui va changer. Donc on va commencer dès 2027 un certain nombre de travaux dans l'artère principale, en lien avec le département, parce que c'est une route départementale qui traverse la zone. Donc on a identifié déjà des cheminements possibles, on travaille avec les enseignes, on travaille aussi avec celles et ceux qui peuvent imaginer, réaliser cela, en passant aussi sur des espaces qui ne sont pas propriétés de la collectivité. N'oubliez pas, hein, il y a 220 enseignes, mais il y a à peu près 120 propriétaires différents. Donc quand vous faites
ça
un cheminement
beaucoup de monde à mettre autour de la table.
Chez l'autre. Le parking est propriété de Carrefour, par exemple. Donc on ne peut pas imaginer qu'on fasse chez eux sans avoir leur accord. Et même, il y a des parties des aménagements qui relèvent de leur responsabilité, c'est aussi de leur financement.
Et les discussions se passent bien, donc il y a ces aménagements pour les mobilités, et puis on imagine maintenant, quand on regarde les zones commerciales qui encore sortent de terre, quelque chose de plus moderne, de plus vert peut-être aussi, là c'est très minéral pour l'instant, la zone de Barre.
Alors, il y a différentes, vous savez, il y a eu la zone historique, le Ménilroux, mais ensuite il y a eu ce qu'on appelle la Carbonnière, et la Carbonnière 2, elle bénéficie d'aménagements paysagers de qualité, il y a des noues, il y a vraiment des choses qui sont plus modernes. C'est vrai qu'elle a, vous l'avez rappelé tout à l'heure, elle a été créée en 73, et on voit au fil du temps, on est capable, on regarde le bâtiment, on regarde comment est conçu les aménagements, sont conçus les aménagements autour de ces bâtiments, on est capable de dire, ah bah ça c'est plutôt années 90, etc. Donc c'est vrai qu'on fait aujourd'hui d'une façon complètement différente, qui intègre ces dimensions-là. Il y a des enjeux de modernisation. Si je prends Carrefour, par exemple, qui est important, hein, 14 000 m², c'est un des plus gros employeurs du territoire avec Ferrero, il envisage prochainement d'avoir des ombrières solaires, par exemple. Donc ça va aussi qualifier un peu différemment ce vaste parking.
C'est-à-dire des panneaux solaires sur le parking voilà. Pour que les voitures soient à l'ombre, et on produit en plus de l'électricité.
Voilà, produire de l'électricité, il y a des enjeux d'aménagement, il y a un élargissement du drive, bref. On voit que les enseignes bougent et bougent plutôt dans le bon sens.
Et quand est-ce qu'on arrivera au bout de ces aménagements sur cette zone? C'est un horizon 2030 ?
On va vite hein, déjà. Hein. Je rappelle qu'on a déjà une sortie supplémentaire au niveau de la Carbonnière, une sortie sud. Ça va dans le bon sens.
Ça, c'est pour le trafic. Et c'est vrai que le samedi, on voit déjà une différence.
Voilà, ça fait sauter le bouchon hein, d'une certaine manière. On a l'arrivée du bus. On a aussi des nouvelles enseignes sur le loisir. Donc, on ne peut pas dire qu'on est resté les bras croisés. Pourquoi c'est de longue haleine? Parce que on doit faire des travaux parfois pas chez nous, forcément l'accord du propriétaire. Quand vous avez 120 propriétaires, ça se fait pas du jour au lendemain. Et en même temps, qu'on avance sur les aménagements, sur le fait de fluidifier la circulation, il y a la vie économique, c'est-à-dire qu'il y a des décisions d'enseignes parfois qui choisissent de fermer, il y en a
d'autres qui s'installent.
Personne n'a vu venir, par exemple, il y a 4 ans, une crise du secteur de l'habillement aussi violente.
Forcément, ça change
énormément d'enseignes qui ont fermé. Ça change la donne, parce que quand vous prévoyez des aménagements autour d'une enseigne et que l'enseigne, elle disparaît, bah, ça change un peu le parti pris qui était le vôtre au départ.
Vous êtes en direct sur Tendance Ouest avec Christophe Bouillon, le maire de Barentin. Il est 12h34.
Leur parcours, leur projet, leur ville, les maires se livrent sur Tendance Ouest.
Autre enjeu majeur à Barentin, Christophe Bouillon, et dans les villes moyennes en général, celui de la mobilité lors de votre précédent mandat. Et on a commencé à en toucher un mot, vous avez lancé le réseau de bus Moka. C'est vrai que ça n'existait pas, le bus à Barentin. Pour quel résultat, Christophe Bouillon, vous êtes satisfait de ce que ça donne?
Alors je ne suis pas le seul à être satisfait, les habitants sont satisfaits. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'usagers aujourd'hui. Par exemple, si on regarde les chiffres pour l'année complète en 2025, c'est 111 000. Voyage, donc c'est exceptionnel. Hein. Je rappelle que la communauté de communes Ostreberte, c'est 26 000 habitants, et que pour l'instant, on est au début de la création du réseau, on a 3 communes qui sont desservies, Pavilly, Barentin et Villers-Écal.
Et c'est donc sûr que 111 000, c'est à mettre en regard avec zéro, donc c'est, oui, c'est déjà une progression importante.
Déjà, mais nette amélioration, ça va de soi, mais au-delà de ça, on a adopté en fait ce petit Moka. Hein. Moi, j'ai des personnes qui disent notre petit bus, notre petit Moka, de façon affective presque. Bon, ça manquait, ça c'est une évidence. Ça marche. Le pari risqué, ça aurait été de concevoir un réseau et que personne ne l'utilise. C'est pas le cas aujourd'hui. On a encore des améliorations à prévoir.
C'est ça, il a redimensionné peut-être. C'est vrai que pendant la campagne, certains habitants qu'on a rencontrés se plaignaient de ne pas être encore desservis dans certains quartiers, des personnes âgées, des actifs qui sont pas encore concernés par le réseau tel qu'il est dimensionné. Finalement.
On fait pas un réseau du jour au lendemain. En fait, nous, on ne doit pas se comparer au Havre ou à Rouen. Nous, si on se compare à un territoire qui nous ressemble à Yvetot, on est plutôt dans cette dimension-là. Et objectivement, en aussi peu de temps, puisqu'on a bâti ce réseau en moins de 2 ans, desservir autant d'espace, c'est plutôt satisfaisant. Après, on a différentes contraintes qui s'imposent à nous. Ça a échappé à personne. On est sur un territoire avec une montée,
une ville basse, une ville haute.
Il y a une topographie assez importante. Il y a des secteurs où on ne peut pas faire circuler un bus pour des questions de giration, de mouvement. Quoi qu'il en soit, un réseau, il a à la fois des lignes principales et ensuite il a des lignes secondaires. La réflexion aujourd'hui pour nous, c'est comment on rabat sur les lignes principales. Un bus, c'est pas un taxi, il passe pas partout, d'une certaine manière. Et j'ai envie de dire, s'il passait dans toutes les rues de l'ensemble des communes du territoire, des 9 communes, il y aurait pas forcément autant de passagers. Pourquoi ? Parce que si vous prenez un bus et vous mettez une heure...
Oui, parce qu'il s'arrête trop souvent.
C'est pas possible. D'ailleurs, vous savez, il y a des bus qui existent entre Barentin et Rouen. Pourquoi ils ne sont pas utilisés d'une façon encore plus forte ? Parce que ça prend beaucoup de temps.
Justement,
les gens, ils font le calcul, ils regardent combien de temps je mets pour aller de tel autre endroit à tel autre endroit.
Là, vous faites les transitions, Christophe Vouillon, parce que c'est un des autres enjeux de mobilité. Évidemment, c'est le lien entre Barentin et Rouen. Évidemment que des habitants de Barentin se sont tournés vers la métropole rouennaise pour le bassin d'emploi, tout simplement. Et vous avez parlé lors de votre campagne de la création d'une ligne de bus express entre Barentin et Rouen. Comment ça marche ? C'est un bus qui prend la 150, en fait ?
Alors, d'abord... Il y a des mouvements des deux sens. Il y a énormément de métropolitains qui travaillent dans notre territoire. Ils travaillent sur la zone commerciale, ils travaillent chez Ferro, qui est le plus gros employeur. Et puis, inversement, on a aussi 74% des actifs de notre territoire qui travaillent vers la métropole. Donc ça va dans les deux sens. Et j'ai envie de dire, c'est pas simplement le matin ou le soir. Le matin pour aller au boulot et le soir quand on rentre du boulot, c'est tout le temps parce que la zone commerciale, 5 millions de clients par an. Il y a différentes façons de circuler. Il y a le train. Il faut le rappeler, on a quand même la chance d'avoir la 7e gare du département.
On va en parler aussi du
train. Et puis, il y a la voiture, mais on voit que ça bouchonne quand on rentre dans Rouen.
La 150, pas toujours facile, effectivement.
Le soir, par exemple. Nous,
Bus express, pardon, pour qu'on comprenne, c'est un bus avec des voies dédiées, c'est ça ?
Exactement. Ça existe, vous savez, ça existe autour de Cherbourg, par exemple. Ça existe un peu partout en France. Pourquoi aujourd'hui, c'est plutôt un moyen pratique ? Ça coûte moins cher qu'une infrastructure ferroviaire, d'une certaine manière. C'est adaptable. Vous y faites circuler n'importe quel type de bus. Et on peut aussi changer le gabarit ou des choses comme ça. On a quand même la chance d'avoir entre Barentin et Rouen l'autoroute, d'une certaine manière. Il y a une partie où c'est assez facile d'imaginer une voie dédiée. C'est un peu plus compliqué quand on arrive de Rouen dans ce qu'on appelle les barrières du Havre. On parle à beaucoup d'auditeurs qui fréquentent cette arrivée dans Rouen. Donc ça demande sans doute de travailler sur la bande d'arrêt d'urgence, etc. Vous savez, on a...
Et ça, c'est dans les tuyaux ?
Oui, c'est dans les tuyaux. On a ce qu'on appelle le service
dossier
exprès,
avec
régional.
La métropole de Rouen y est favorable.
Nous, on travaille main dans la main avec la métropole sur ce sujet. Et j'ai envie de dire avec d'autres acteurs. Et ça passe par ce qu'on appelle le service express régional métropolitain. Il n'y a pas simplement une sorte de RER, entre guillemets, c'est le train de Saint-Domain-les-Elbeufs jusqu'à Barentin-Pavilly. On a aussi des axes qui figurent aujourd'hui, qui ont été identifiés d'entrée par le bus. Moi, j'ai envie de dire, c'est mieux qu'il y ait des gens qui se retrouvent ensemble dans un bus plutôt qu'il y ait des pare-chocs qui se suivent les uns après les autres. Ça évite l'autosolisme et ça évite des bouchons tels qu'on les rencontre aujourd'hui quand on rentre dans Rouen.
Merci Christophe Bouillon, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission.
Leur parcours, leur projet, leur ville, les maires se livrent sur Tendance Ouest.
De retour sur Tendance Ouest avec Christophe Bouillon, le maire de Barentin. On ne l'a pas évoqué jusqu'à présent, vous êtes aussi le président de l'association des petites villes de France. On va y revenir dans un tout petit instant. Juste un mot sur le train qu'on n'a pas tout à fait eu le temps d'évoquer avant la pause. La gare de Barentin, 6e, 7e gare de Seine-Maritime, avec des enjeux importants d'accessibilité pour aussi augmenter son trafic. Où est-ce qu'on en est des travaux sur la gare?
C'est la 7e gare du département. Il y a plus de 300 000 voyages par an et le nombre de voyages a augmenté fortement, plus de 25%. Moi, j'aimerais qu'il y ait encore plus de monde qui prenne le train, mais pour cela, il faut qu'elle soit accessible. Concrètement, aujourd'hui, une personne en situation de handicap ne peut pas aller sur Rouen partant de Barentin. Et une personne âgée également, ou une personne à vélo. C'est un peu dommage, on est à 15 minutes de Rouen, on arrive directement dans le centre-ville. Et inversement, quand on vient de Rouen, on arrive à 7 minutes du centre-ville. Donc, franchement, moi, je demande à corps et à cri à la SNCF de faire un effort, et à la région également. Alors, ça tombe bien, puisque je vais accueillir la semaine prochaine pour les assises des petites villes de France qui se tiennent à Château-Thierry, le 18 et 19 juin, parmi les grands témoins, Jean Castex. Donc, ça sera l'occasion pour moi, sans doute, d'insister auprès de
Jean Castex, enfin, est désormais à la tête de la SNCF. Alors justement, l'association des petites villes de France fédère les villes de 2500 à 25 000 habitants. On est en plein dans la moyenne à Barentin avec 12 000 et quelques habitants. Quel est le rôle de cette association? C'est de se dire ensemble on est plus fort, c'est de faire entendre les difficultés au plus haut niveau de l'État. C'est une sorte de lobby dans le bon sens du terme.
C'est à la fois un club, hein, parce que c'est important pour un élu de ne pas se sentir seul. Et quand on se retrouve avec d'autres collègues, on échange sur ses difficultés, mais aussi sur ses solutions. C'est aussi, en effet, un interlocuteur des pouvoirs publics. Là, on agit, on fait du lobbying territorial de façon positive. On défend les revendications qu'on peut porter sur plein de sujets. C'est pas simplement les finances, ça peut être le statut des agents de la fonction publique territoriale.
On a parlé tout à l'heure, le statut des élus, le train justement.
Le train, ça peut être les questions de transition énergétique, écologique, la question démographique, le vieillissement de la population. Nous, on a toujours considéré que ce qui était important pour nous, c'est de pas pleurnicher, c'est-à-dire de venir avec des propositions. On n'est pas là simplement pour se plaindre. C'est pas la complainte des maires qui sont jamais contents, au contraire. Nous, on vit cette expérience à travers l'Association des petites villes de France comme étant très positive. On ne vient jamais les bras vides. C'est-à-dire que quand on est sollicité par tel ou tel ministère, c'est assez régulier, on vient avec des propositions. On a participé au Beauvau de la sécurité, sur les enjeux de tranquillité publique, au Ségur de la santé, sur les questions de l'offre de soins dans les territoires, aux enjeux de mobilité quand il y a eu la loi d'orientation sur les mobilités. Bref.
Et vous avez le sentiment d'être entendu? C'est un rapport un peu à la je t'aime moi non plus avec les services de l'État. Il y a eu un moment où les maires se sont beaucoup plaints de pas voir leur avis pris en considération. On a connu il y a quelques années le grand débat national qui était la sorte de résolution à la crise des gilets jaunes, et c'était par les maires que passaient tous ces cahiers de doléances. On a dit il faut aller voir les élus de terrain. Ces cahiers de doléances, ils sont dans des placards quelque part à Matignon ou à l'Élysée. Quel sentiment vous avez, justement, sur le rapport entre les élus de proximité, l'État? Est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que vous vous sentez martyrisé? On parle beaucoup des baisses de dotation.
Alors, on est entendu, parfois. On a un texte qui est passé, qui s'appelle le statut de l'élu, qui tient compte des propositions qu'on a mises sur la table. On a un texte en cours d'examen au Parlement qui s'appelle Riposte sur les questions de tranquillité publique, où il y a des nouveaux outils sur les rodéos, sur le narcotrafic, etc. Donc on est entendu sur l'idée de une meilleure coopération entre les différentes forces de l'ordre, police municipale, gendarmerie ou police nationale. Et puis parfois on n'est pas entendu. Par exemple, on n'est pas entendu sur la question des finances.
Toujours des efforts aux collectivités qui, on le rappelle, elles n'ont pas le droit de présenter un budget en déséquilibre. Au contraire de l'État, qui présente des budgets en déficit chaque année depuis une cinquantaine d'années.
Depuis les années 70, hein, premier déficit, ça date de 74. Nous, c'est tout le contraire. On a une règle d'or, il y a autant de dépenses que de recettes. On ne peut pas dépenser plus de ce qu'on a, tout simplement. On est plutôt vertueux. D'ailleurs, quand on regarde la dette des collectivités locales en France, elle n'a pas bougé depuis plus de 10 ans. On est plutôt considéré, hein, c'est documenté, comme étant très prudent. On n'engage pas les finances de la collectivité n'importe comment. De toute façon, on ne peut pas. On est très encadré de ce côté-là.
Est-ce que vous pouvez, Christophe Bouillon, encore vous serrer la ceinture comme ça a l'air d'être demandé?
Maintenant, j'ai envie de dire, si on me demande de faire plus, alors qu'on est déjà à l'os, hein, excusez-moi l'expression, mais c'est la réalité de beaucoup de collectivités, elles ne savent plus comment faire des économies. Le problème de la ceinture, c'est qu'il faut rajouter des trous, et à un moment ou à un autre, on finit par ne plus pouvoir respirer, tout simplement parce qu'on n'a plus les moyens d'exercer ce qu'on nous demande de faire. Ce qui est insupportable aujourd'hui, c'est qu'on nous dit « faites un effort sur la transition écologique ». On vous demande d'isoler vos bâtiments, isoler les écoles, les gymnases. Avant d'être une économie, c'est une dépense, sauf qu'on ne nous donne plus les moyens.
Et c'est vrai que les investissements sur la transition écologique sont beaucoup portés par les territoires aussi.
Et accompagnés parfois par les pouvoirs publics. Moi, on a applaudi dès demain quand il y a eu la création du Fonds vert. Simplement, aujourd'hui, il a fondu plus vite que la banquise, d'une certaine manière.
Donc, le fonds vert, c'était une enveloppe qui était mise à disposition par l'État pour les collectivités, pour des travaux de transition écologique. Et cette enveloppe, elle a drastiquement diminué. L'année dernière.
En effet, dans le précédent budget, et on nous dit qu'elle va encore plus diminuer. C'est pas possible, on peut pas l'admettre. De la même façon, on dit aux collectivités, faites un effort dans le domaine de la pratique sportive, dans le domaine de la culture. Et en même temps, on nous retire des dotations, on nous impose des dépenses obligatoires sans qu'il y ait des recettes en face. On nous dit sur la tranquillité publique, mais faites un effort, plus de policiers municipaux, mais on nous diminue les recettes des collectivités. Donc on voit qu'à un moment ou à un autre, on est pris entre le marteau et l'enclume, ça devient insupportable. Nous, on a envie d'être partenaire loyal de l'État. Simplement, il faut qu'en retour... l'État, le gouvernement fasse en sorte de ne pas nous empêcher d'agir. On va avoir bientôt le projet de loi de finances 2027. Oui, ça arrive vite. Nous, ce qu'on craint, c'est que l'effort qui soit demandé aux collectivités soit encore plus fort que ce qui nous a demandé les fois précédentes. Et là, franchement, je ne sais pas comment on va faire, sauf parfois, il y a des communes qui l'ont fait à fermer des services publics. Il y a des piscines parfois qui ont été fermées un certain nombre de mois. Il y a des bibliothèques qui réduisent les plages horaires d'ouverture. Il y a des centres d'accueil de loisirs qui n'opèrent plus. C'est pas possible. À un moment ou à un autre, tout ça, ça participe de la cohésion sociale, ça participe du bien vivre à l'échelle des territoires.
Et on peut imaginer, Christophe Bouillon, qu'il va y avoir un texte, une résolution qui va être rédigée à l'issue des assises de l'Assaut des Petites Villes de France que vous présidez, qui sont la semaine prochaine. J'imagine que vous allez en profiter pour interpeller l'État, le ministre du Budget, sur ces questions-là, la question des dotations. Beaucoup de maires nous ont dit ça au moment des municipales. Hein. Il y avait un programme, on sentait aussi qu'il y avait de la retenue chez les maires, souvent ceux qui étaient déjà élus, pour dire ça va aussi un peu dépendre de ce que l'État voudra bien nous donner.
Oui, on a été prudents. C'est fini l'époque où il y avait des projets avec beaucoup d'équipements. Il faut être prudent. On a un principe de réalité. En même temps, et c'est ça qui n'est pas supportable, c'est qu'on s'engage, nous, sur 6 ans. On a souvent des plans pluriannuels d'investissement. On regarde les moyens dont on dispose et on les étale sur les années. C'est pas vrai de l'État. C'est-à-dire qu'on a une visibilité zéro. C'est le brouillard absolu. Aucune commune peut garantir la dotation qu'elle percevra de l'État. Ça change tous les ans. Les critères sont parfois... c'est une boîte noire. Hein. On n'en a pas la bonne compréhension. Et nous, on demande de la visibilité. Dans cette résolution, on sera très ferme sur ce point-là. C'est-à-dire qu'on veut être un partenaire loyal de l'État, mais en échange, on veut de la visibilité, de la lisibilité. On veut un pacte de confiance. C'est pas possible aujourd'hui qu'on vienne nous chercher, vous l'avez dit tout à l'heure, quand il y a des crises, la crise Covid, la crise des Gilets jaunes, là, on a caressé dans le sens du poil les maires. Et puis, quand il y a des sacrifices à faire, c'est les premiers qu'on vient chercher. On leur demande pas leur avis. Vous savez, on sera à Château-Thierry, c'est la ville de Jean de La Fontaine. Vous connaissez la fable sur la fourmi et la cigale. Nous, on est un peu les fourmis, aujourd'hui, de l'action publique. On fait des économies, on est très besogneux, on fait des efforts. Il y a une cigale qui s'est appelée l'État pendant des années et des années. Aujourd'hui, la cigale, on voit bien qu'elle a trop chanté, mais c'est injuste que les efforts soient portés sur les fourmis.
Avant de vous laisser, Christophe Bouillon, une question sur le regard que vous portez sur le débat public actuellement. Il y a incontestablement une montée de l'extrême droite, des propos très radicaux que l'on entend dernièrement, notamment dans le sillage du drame de l'IANA. Comment vous le jugez, ce climat actuel? On a parlé de l'ambiance qu'il y avait pu avoir à l'Assemblée. Là, il y a ce lien que vous avez avec vos concitoyens, il y a le débat politique, le débat médiatique. Comment vous le jugez actuellement?
Très sévèrement. Je crois qu'on a tous à perdre si ce climat continue, voire s'aggrave. On est tous perdants dans l'affaire. Vous savez, si tout se vaut, rien n'a de la valeur. Moi, je vois des mots aujourd'hui qui sont balancés à la figure des uns et des autres, où on s'autorise n'importe quoi. On s'autorise de s'en prendre aux journalistes, aux élus, aux magistrats. Bref, tout le monde en porte pour son grade. On peut dire, tant mieux. Non, parce qu'au bout du bout, on a tous à perdre s'il n'y a pas des règles du jeu, si on ne fait pas attention à ce qu'on dit. Il y a une responsabilité politique. Il ne s'agit pas de jeter la responsabilité sur une profession plus qu'un autre. Je comprends la colère des administrés. Il y a parfois un sentiment d'impuissance. Il y a parfois le sentiment que finalement, il n'y a pas suffisamment d'écoute. Vous évoquiez tout à l'heure les cahiers de doléances. C'est vrai que ce n'est pas normal que, alors que les citoyens se sont saisis de l'opportunité qui leur était offerte de dire des choses, qu'il n'y ait pas eu de suite donnée. Donc il y a une responsabilité. Pour autant, faisons attention. Tout le monde est perdant à la fin. Si à un moment ou à un autre, on finit par considérer que chacun peut se faire justice soi-même, qu'on peut s'en prendre à son voisin assez facilement, on sera la prochaine victime. Chacun, potentiellement, s'il n'y a plus de règles du jeu, peut être la victime d'une menace, d'un jugement sévère, d'un comportement inapproprié.
Et il y a une certaine surenchère. Est-ce qu'il y a encore de la place pour, dans le débat public, des propos mesurés, les propos mesurés d'un social-démocrate, j'allais dire, si on peut vous ranger dans cette catégorie, Christophe Bouillon?
Moi, je suis violemment modéré. Vous savez, c'est une formule d'un célèbre havrais, Siegfried, qui disait des Normands qui sont violemment modérés. Je pense qu'on peut avoir des convictions fortes, on peut dire des choses. Je pense que pendant l'entretien que nous avons, je ne vais pas rester derrière mon petit doigt. Mais pour autant, il faut le faire avec mesure. Il faut le faire en considérant quelque part qu'on a intérêt à apaiser le débat. Encore une fois, ça n'empêche pas la colère, il faut l'entendre. Ça n'empêche pas, il faut éviter le déni d'un certain nombre de sujets qui sont réels. Mais si c'est les uns contre les autres, à la fin, tout le monde est perdant. Donc moi, je suis plutôt à considérer que le rôle du politique aussi, c'est pas de jeter de l'huile sur le feu.
Violemment modéré, si en 20 secondes vous aviez un souhait en tant qu'élu, une baguette magique pour changer instantanément quelque chose?
Moi, je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut reconsidérer le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on court sans arrêt derrière l'urgence. La définition de politique, c'est se projeter. Ce que attendent les citoyens aujourd'hui, c'est qu'on calme le jeu et on fasse ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a dit qu'on ferait.
Merci beaucoup, on se quitte sur ces mots, Christophe Bouillon, d'avoir été notre invité ce midi, maire de Barentin, président de la communauté de communes Caux-Ostreberthe, président de l'Asso des Petites Villes de France. Il y aura le congrès la semaine prochaine. Cette interview est à retrouver dès cet après-midi en podcast avec celle d'autres maires de votre région sur notre site internet tendanceouest.com. Dans un instant, ce sera le retour de Hit et tout de suite, les infos. Excellent après-midi.